que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Demandons à l'Esprit Saint, le Père des pauvres, d'illuminer notre cœur et notre intelligence pour nous conduire à la vérité tout entière. Notre-Dame du Très-Saint-Rosaire, notre Père Saint-Jean, Saint Thomas. La dernière fois, nous avons vu comment Dieu, Père de notre âme, nécessairement nous conduit à notre finalité, à notre fin, qui est une fin qui relève de l'intelligence et de la volonté. Donc, l'éveil de notre intelligence, l'éveil de notre volonté, le premier éveil de l'intelligence et le premier éveil de la volonté réclame nécessairement un secours. Mais que nous n'avons pas conscience. Vous n'avez pas eu conscience du soutien de Dieu, du secours de Dieu pour votre premier acte volontaire. Premier acte libre, volontaire. C'est difficile à vous le rappeler. Notre mère a peut-être pris conscience de ça. Mais celui qui l'a exercé d'une façon très, très imparfaite. Par exemple, l'exemple. Quand on est né dans une famille chrétienne, avec des parents qui ont le souci d'élever le petit bonhomme ou la petite bonne femme à la vie chrétienne, on a prié avec ses parents et ses frères et sœurs. Normalement, le premier acte de prière est un acte volontaire, libre. Mais le premier acte de prière s'est fait dans un contexte qui nous portait. Donc, l'éveil de la liberté, de la volonté, l'éveil du cœur était très faible. C'était de l'ordre de la disposition. Y a-t-il eu un acte libre à ce moment-là? Je ne crois pas. C'est la différence entre l'éducation et le dressage. Il y a une part, forcément, au début, qui est dans l'éducation, mais où il y a très peu de coopération libre. On suit. De sorte que je crois que c'est très difficile de préciser, parce que Astalt-là, on ne s'occupe pas de l'éveil de l'intelligence et de l'éveil de la volonté. Notre mère s'est peut-être inquiétée, du moins avait peut-être l'attention face à un acte libre, parce qu'on résiste toujours un peu à la prière. On n'aime pas prier, c'est pas tellement naturel. Et notre mère nous dit non, elle, la prière, on a accepté, on a suivi. Aristote rappelle le point de vue très important de l'exemple pour l'éducation. On a imité notre mère, notre père, nos frères aînés. On a imité. Et c'est vrai, je crois que ça joue énormément, l'imitation. Mais l'imitation, c'est un acte libre, très commandé. Y a-t-il intervention de Dieu pour imiter quelqu'un qui est en nous ? C'est très délicat, ça. Et c'est intéressant de poser la question. C'était quand même un certain acte libre d'imiter. Un animal n'imite pas. Donc il y a quelque chose d'humain. D'imiter. On imite ses frères aînés, on imite ses parents, qui sont co-exemplaires. Aristote note, et je crois que c'est vrai, que notre liberté commence par l'imitation, imiter. C'est le degré le plus inférieur de la liberté. Quand on imite un aîné, quand on imite quelqu'un qui est devant nous, quelqu'un qui est plus grand que nous, on imite. C'est un acte humain. Un animal ne le ferait pas. Mais c'est un acte humain qui dispose. On est dans la disposition. Est-ce que là, il y a toujours là Dieu qui est là présent, c'est évident au point de vue. Mais un acte spécial du gouvernement divin, je ne crois pas. Je crois que dans l'imitation, et c'est là qu'on voit l'importance du milieu. Un acte libre est un dépassement du milieu. Le milieu permet une imitation. Alors, à quel moment on fait vraiment un acte libre pour prier ? C'est peut-être à ce moment-là qu'on peut discerner une intervention de Dieu. Mais on est resté longtemps dans l'imitation. Et quelquefois, ça dure très très longtemps. Et que dès qu'il est en dehors du milieu, il est fini. Ce qui montre bien que ce n'était pas humain. Que ce n'était pas vraiment un acte humain. Parce qu'il serait demeuré même en dehors du milieu. Le milieu, c'est la cause matérielle, c'est la cause maternelle qui soutient, qui aide et qui permet à celui qui imite de faire un acte humain très faible. On a commencé par imiter. Ça, c'est sûr. très important dans l'éducation. Et c'est à partir, c'est comme ça qu'on, des enfants volés par des loups, on voit qu'ils s'imitent. Le milieu est différent entre le milieu familial et le milieu des loups. C'est pas la même chose, mais dans le milieu des loups, il n'émerge pas. Autant ne pas le savoir. On reste dans l'imitation. Parce qu'on n'a jamais la présence d'un acte libre. Alors c'est ça qui est très curieux du reste, et qui fait dire à certains qu'il n'y a pas d'âme, on est tellement dépendant. Et si le petit enfant volé par des loups n'arrive pas à un acte humain, parce qu'il imite, on est tenté de dire, voyez, il n'y a pas d'âme. Parce qu'il restera dans un geste d'imitation. Donc là, il y a un problème très intéressant de l'importance de la causalité exemplaire du modèle dans toute l'éducation. Et normalement, en imitant, on dispose. On est dans un acte imparfait qui dispose. Alors, l'acte imparfait qui dispose, c'est que la causalité matérielle l'emporte sur le point de vue de la fin. Oui. Imiter quelqu'un, ce n'est pas encore la finalité. C'est la causalité exemplaire. Et la causalité exemplaire est première dans l'ordre du devenir. On imite. Donc le point de vue formel est très important dans le point de vue de l'imitation et dans le point de vue de la cause formelle. De là va arriver à une découverte de l'acte humain qui commencera par une intention vis-à-vis de la fin. Je crois que tant qu'il n'y a pas un acte qui est vraiment orienté vers notre fin, il n'y a pas d'acte humain proprement dit, et il n'y a pas de secours direct de Dieu. Je crois qu'on peut dire que le premier acte de volonté et de liberté n'a pas pu s'exercer sans un secours spécial de Dieu. Parce que c'est à ce moment-là qu'on est passé de l'animal à l'homme dans nos activités. L'animal peut imiter. Ce n'est pas encore un acte humain d'imitation. C'est un acte imparfait au point de vue humain. Parce que la causalité exemplaire joue un rôle capital. Vous voyez, au fond, on fait très peu attention à ça, alors qu'on devrait être très attentif. L'imitation est la préparation à un acte humain. Et dans l'ordre de l'éducation, puisque l'éducation implique un devenir, dans l'ordre du devenir et de l'éducation, donc, le point de vue de la disposition est capital. Et ça relève du milieu. Ça relève de l'imitation. Où Dieu intervient nécessairement, c'est le premier acte de notre liberté. Le premier acte de notre volonté. Le premier acte de notre volonté, nécessairement, c'est la fin, donc le bien final, c'est la fin qui nous attire. Mais encore une fois, cette attraction est très liée à l'imaginaire, est très liée à la cause exemplaire, donc est en fond très imparfait encore. À quel moment avons-nous vraiment joué, posé un acte libre, volontaire? Je crois que très souvent, ce premier acte a été négatif. Je crois. Poser un acte négatif, un acte de désobéissance, oui, à l'égard de celui ou de celle qu'on imite, qu'on suit, il y a une rupture. Et ça, je crois qu'au point de vue psychologique, c'est très important. Il y a eu une rupture par la négation. La négation a été un refus d'imiter. Le premier acte de négation, un refus d'imiter. Alors, ce refus d'imiter, oui, n'a pas impliqué le secours de Dieu. Le secours de Dieu a été pour le premier acte d'attraction de la finalité, et non pas de la négation. Or, psychologiquement, c'est dans la négation qu'on voit le point de vue de la naissance de la liberté. Mais cette naissance de la liberté, en raison du péché originel, s'est exprimée négativement. C'est ça qui est très curieux et qui est très important. Notre volonté, la plupart du temps, je ne dis pas toujours, mais je crois que la plupart du temps, notre volonté s'est éveillée dans la négation. Donc, sans le secours de Dieu, ce n'est qu'après qu'on revient de façon positive à l'attraction de la fin, où le secours de Dieu est présent. Alors là, je ne peux pas l'affirmer, mais je crois que c'est une chose auquel on doit être très attentif. Parce que tout acte négatif n'implique pas le secours de Dieu. Et un refus. L'acte négatif, c'était pour nous, c'était le refus d'obéissance. On a dit non. La première fois qu'on a dit non. Il y a une rupture. Cette rupture, de fait, s'est faite avant, je crois, un acte libre. C'est très curieux. Mais je crois que c'est très intéressant de voir ça, parce que ça, ce serait pour le philosophe, si nous plaçons au point de vue philosophique, pour le philosophe, le signe qu'il y a dans notre nature humaine quelque chose qui n'est pas bon. Notre nature humaine devrait être bonne. Ce refus, ce premier acte négatif, a exprimé qu'il y avait en nous quelque chose de négatif. Alors, au point de vue chrétien, nous disons, conséquence du péché, que le philosophe ne peut pas dire. Parce que le philosophe ne peut pas dire que... Mais le philosophe constate que la négation pour l'enfant est antérieure à l'affirmation. L'enfant il imite est positif. Mais à un moment, l'imitation ne se fait plus. Il y a une négation, un retour sur lui. Oui, alors, c'est le premier moment où il prend conscience de ce qu'il est. Et on ne peut pas dire que ce premier moment s'est fait sous l'action de Dieu, puisqu'il est négatif. C'est la conséquence de quelque chose qui est en quelque chose qui est en moi, qui me met la négation avant l'affirmation. Et ça, c'est la conséquence normale du péché. Et je crois que ça, c'est très intéressant à noter et à voir. Parce que c'est sûr que l'enfant progresse. Il progresse par la négation. Il s'en sert de la négation. La négation en elle-même n'est pas bonne. C'est sûr. Et donc, ça ne peut pas être du secours de Dieu. À ce moment-là, on ne peut pas dire que c'est Dieu qui agit. Non. C'est la conséquence du péché. Dieu a toujours agi. C'est évident, dès le point de départ, dans son concours habituel de Dieu. Mais une intervention de Dieu pour aider ne vient qu'après la négation. Il y a un retour vers le point de vue positif. Alors là, Dieu intervient. C'est, je crois, très important à noter ça. Parce que c'est le signe, vous voyez, j'allais dire, dans le devenir, on est avant pécheur, avant d'être bon. C'est curieux. C'est plus facile d'être pécheur. Et le poids du péché se traduit par la négation, le refus d'obéir. Donc le refus d'imiter. À un moment donné, on a refusé d'imiter. Pour progresser, ce refus était peut-être nécessaire. Tu pouvais-il n'a pas le choix. Il est toujours premier, à tel point que les psychologues aiment de discerner l'âge de la négation. La négation ne vient pas tout de suite. Hein. L'âge de la négation est quelque chose qu'on peut noter et remarquer. Alors c'est intéressant de noter cette première négation. Qui est un refus d'imiter, un refus d'obéir. Donc, un refus d'obéir, c'est-à-dire le désir d'être soi-même. Quand on imite, on suit quelqu'un d'autre. Et suivre quelqu'un d'autre, ce n'est pas nous, puisque c'est l'autre qui commande. Donc, ce refus d'obéir est très important. Est très intéressant pour voir comment on se meut soi-même. Parce que la liberté, c'est tout simplement la vie de l'esprit. Se voir soi-même. Le refus d'être toujours second. Point d'orgueil. La première chose, je crois, qui se manifeste en nous, c'est ça. La conséquence du péché, c'est le refus d'être second, donc le refus de l'obéissance. émerge en nous cette espèce de négation. C'est très important de voir que l'acte plus personnel pour chacun d'entre nous a été la négation. Je crois qu'on peut le dire, l'acte le plus personnel a été d'abord la négation, conséquence du péché. Conséquence du péché pour le chrétien. Pour celui qui n'est pas chrétien et qui observe uniquement au point de vue psychologique, il y a, ah, très bien, voilà sa personnalité qui pousse. Pour celui qui est chrétien, pour la mère chrétienne, elle dira, elle essaiera de corriger ça, de reprendre ça, d'une façon ou d'une autre. Et les deux regards, je crois que ça c'est très important, le regard proprement philosophique et le regard chrétien. Et c'est à l'égard de la négation, le refus, qu'on voit tout de suite la différence entre le psychologue et le chrétien. Et le philosophe doit être celui qui discerne entre le psychologue qui voit la négation et grâce à la négation, je m'affirme. Alors là, c'est ça qu'il faut bien voir. Que je m'affirme premièrement dans la négation. Parce que mon affirmation n'est pas assez forte. Il faudrait une affirmation qui vienne de la finalité. Une affirmation qui vient de la finalité, ça ne vient pas tout de suite. On doit passer, et je crois qu'on passe toujours, dans un moment d'imitation. Donc, le premier refus n'a pas été par rapport à la finalité, mais par rapport à l'exemplarité. On a refusé d'être second, et on a voulu être premier. Dans toute négation, il y a ça. Puisque vous refusez d'être second quand vous affirmez quelque chose de réel avant vous. Ceci est. Et vous êtes dépendant de cela. Et vous avez la négation qui vous permet de vous exalter. On a une espèce d'amour très particulier, très secret vers la négation. On aime de nier parce qu'en niant, on s'exalte. On passe devant celui qu'on imiterait, celui qui est plus que nous. Bon. Pour s'apercevoir philosophiquement de l'action de la cause première de Dieu créateur, c'est très souvent après cette négation. Le retour vers quelque chose de plus grand et le début du dépassement de l'imitation vers la finalité. Là, c'est bien évident que la plupart des éducateurs et de nos mères ne voyaient pas ça comme ça. Mais j'ai essayé de l'étudier philosophiquement. Et c'est comme ça que la plupart du temps, ça se passe. Regardez, c'est toujours très important de voir comment une mère éduque son enfant qui grandit. Vous ne dites rien, il ne faut surtout pas lui dire sur le moment. Mais quand vous essayez de comprendre, quand on est suffisamment intime avec le foyer, on voit tout de suite, il y a la première présence d'un étranger, alors tout le monde est sage, tout le monde s'écarte, et puis les enfants s'approchent. Et dès qu'ils s'approchent, on retrouve le gamin ou la gamine. Et on voit très bien, et c'est très gênant, les parents sont très gênés de voir que l'enfant ne veillit pas. Nous, en regardant ça, on voit la négation qui pousse. Et c'est très important de voir ça. Parce que notre monde d'aujourd'hui, qui est conduit par le point de vue de la psychologie et non pas par la finalité, la négation est première. Ça, c'est sûr. Le monde est très négatif. La vie commune, dans la vie commune, les conséquences du péché originel se multiplient. C'est déjà pas commode de porter les conséquences du péché originel en soi, mais de les porter chez les autres, c'est encore plus difficile. Eh bien, on voit combien la négation est forte dans une communauté. Et que très facilement, on ne voit que cela. On voit tout de suite les défauts. Et ordinairement, ce sont des défauts par rapport à nous. Par rapport au bien de la communauté, mais par rapport à notre propre épanouissement. Et réfléchissez sur tous vos refus. Philosophiquement, il faut réfléchir sur ces refus. Quand on refuse quelque chose, parce que ça reste, hein, ce refus du gosse, quelquefois il continue très très longtemps. Et le sale gosse qu'on a été, il vit très longtemps à disparaître. Quand il vient là, à 20 ans, 25 ans, ça le gosse. Vous ne pouvez pas dire ça, mais au fond, c'est le refus. Il faut arriver très conscient de ses actes. Parce que c'est le propre de l'homme, hein, c'est qu'il est conscient de ses actes. Et il doit être très attentif aux négations. Parce que les négations ne sont pas constructives. Alors on doit être très, très attentif à ces négations. Les voir. Et voir que très facilement, cette première négation demeure. Et quand on parle de la mémoire du corps, c'est par la négation. C'est à cause de la négation. Puisque la négation arrête l'élan. Donc, c'est inscrit dans le corps. Et la mémoire du corps est négative. Elle met tous les arrêts qui se prolongent et qu'on peut saisir alors à l'âge plus avancé où cette négation empêche d'avancer. Autrement dit, il y a pour chacun d'entre nous le premier péché. Et le premier péché a été un refus à l'égard de l'obéissance et à l'égard de l'imitation. Alors, ce n'est pas un péché grave. Hein. Ce n'est pas un péché grave, je dis péché. Hein. C'est une rupture. Le péché pour le psychologue et pour le philosophe, ce premier péché, c'est une rupture. cette rupture de cette vie en commun, de cette vie avec l'autre. L'enfant vit avec sa mère. Et la rupture de cette vie avec la mère, donc, je dis péché, c'est pas tout à fait juste dire ça. Je crois qu'il faut mieux dire rupture. Pour ne pas mettre un poids moral. C'est une rupture psychologique. Le point de vue moral vient plus tard. Parce que je crois que quand le gosse veut rompre de cette manière-là, c'est sûr, son devoir était d'être soumis à sa mère, de faire confiance à sa mère, mais il en a vite ras-le-bol. Il ne l'exprime pas, mais il n'exprime pas la négation. Et c'est pour ça que c'est pas encore moral. C'est psychologique. Et c'est très important. Parce que Dieu n'agit pas dans la négation. Dieu ne peut coopérer que dans l'attraction de la fin. Il n'opère pas autrement. C'est pas Dieu qui fait ça. Alors, disons pas que c'est un démon. Disons, conséquence du péché. Nous avons en nous un poids et les conséquences du péché se traduisent par la négation. Et ces conséquences du péché, si on n'est pas alerté pour les supprimer, demeurent toute notre vie. Il y a des gens qui sont éternellement négatifs. Et la négation, ça gagne. Et dans un couvent, il suffit qu'il y en ait un qui soit négatif pour que tout le monde soit négatif. Et je crois que c'est une des choses très importantes. Je pense à quelqu'un, et vous peut-être y pensez, vous, qui soigne justement en recherchant ses premières négations, ses premiers refus, qui se répètent et qui peuvent arriver très vite. Alors, le premier moment de l'intervention de Dieu auprès du gouvernement, c'est la découverte de la fin. Or, cette découverte de la fin, c'est l'amitié. Ma première finalité se découvre dans l'amitié. Alors vous voyez, c'est pas tout de suite. Le choix amical, je t'aime, tu es pour moi un ami, ça se fait pas tout de suite. Or, je crois que c'est là où il peut y avoir une intervention de Dieu. Au point de vue philosophique, hein, c'est très important dans l'éducation, le choix d'un ami. Il est très important dans l'éducation, ce premier choix de l'ami. Parce que dans l'éducation de ce premier choix, on peut intervenir. La mère peut intervenir, le frère peut intervenir, l'ami plus âgé peut intervenir. On peut intervenir pour qu'il ne choisisse pas un ami qui ne peut que lui faire du mal. Si on choisit un ami, quelqu'un de plus âgé, il y aura une grosse influence et une influence négative. Ce C'est pour ça que dans l'ordre de l'éducation, donc des interventions de Dieu sur nous, c'est très important. Il y a un moment qui est capital, je crois, dans la découverte de notre liberté. La découverte de notre liberté se fait à travers un choix, et un choix personnel. Or, je crois que le premier choix personnel, c'est à l'égard de la vie. Parce que c'est à l'égard de la finalité, et notre finalité, elle se découvre d'abord chez l'ami. On ne découvre pas tout de suite Dieu. Alors, quelquefois, dans une famille très chrétienne, il peut se faire ça. Que le premier choix, ce soit le Christ. Ce soit Dieu. Mais vous voyez, c'est là où le philosophe peut reconnaître le point de vue de l'intervention de quelque chose d'autre qui permet d'avancer beaucoup plus vite dans l'éducation de la personne humaine. Si votre premier choix a été le Christ, si votre première amitié a été le Christ, c'est évident que ça mûrit. Le philosophe peut seulement le constater dans un milieu chrétien. Et dans un milieu qui n'est pas chrétien, le premier choix, c'est toujours un ami. Parce que celui qui n'est pas chrétien ne peut avoir qu'une connaissance de Dieu philosophique. Or, Dieu, il est loin. Finalité ultime. Il est finalité prochaine qu'au point de vue chrétien. Quelqu'un qui n'est pas chrétien ne peut pas choisir Dieu comme un ami. C'est impossible. Et donc, à ce moment-là, c'est l'homme. Garçon, la petite fille. Je crois que dans le choix amical, Dieu intervient toujours. Parce que c'est l'éveil de notre liberté. C'est là où vraiment notre liberté prend conscience qu'il y a une possibilité de s'arrêter et de reprendre là une nouvelle force. Donc, ce choix amical serait la réponse à la première négation. Et ce choix amical met une victoire. C'est la première victoire que nous pouvons ressentir. Première victoire à l'égard du primat de la négation. Et c'est une grande victoire. Parce que certaines personnes demeurent toujours dans ce primat de la négation. Vous voyez Sartre, quand il raconte ça en son enfance, quand il raconte son éducation, il y a eu chez lui ce primat de la négation, et qui a joué beaucoup. Quand Sartre remercie son père d'être mort vite, parce que ça l'a laissé plus libre. C'est curassé. Remercie son père d'être mort pour que lui soit plus libre. Et son père est mort, je crois, quand il avait 7 ans, 6 ans.
négation. Il y a la négation à l'égard de l'autorité du Père. Donc de remercier Dieu, c'est qu'à ce moment-là, il croyait en Dieu, de remercier Dieu d'avoir fait que son Père. Je crois que c'est toujours très intéressant de voir tous ces points de négation. Et à ce point de vue-là, le point de négation ultime qui a tracé dans toute sa vie, Sartre. Sartre est sûrement l'exemple le plus net d'un prima de négation qui a duré toute sa vie. J'avais comme amitié, tu vois, un garçon que j'aimais bien, avec qui je parlais librement, et qui était grand ami Sartre. Alors il m'avait averti que Sartre était très mauvais, était un peu à la fin de sa vie. Alors il m'a dit, est-ce que ça vous ferait plaisir de le voir ? C'est qu'au fond, à la fin de sa vie, quand il est proche de la mort, il y a quelquefois une possibilité de sortir. Je ne refuse pas. Alors il a dit à un de mes amis, est-ce que je peux venir avec un ami ? Alors ça, t'as tout de suite pensé à c'est un curé. Qui est le nœud qui me permet de sortir de ce prima de la négation.